Chapitre 17, Plumé rouge et plumé blanc, la porte s'ouvre. Après être revenus aux hommes, revenons-en un peu aux choses. Il était 8 heures du soir et la maison de Robert Briquet, toute seule, toute triste, sans un reflet, profilait sa silhouette triangulaire sur un ciel pommelé, évidemment plus disposé à la pluie qu'au clair de lune. Cette pauvre maison, dont on sentait que l'âme était sortie, faisait un digne pendant à cette maison mystérieuse dont nous avons déjà eu l'honneur d'entretenir nos lecteurs et qui s'élevait en face d'elle. Les philosophes qui prétendent que rien ne vit, ne parle, ne sent comme les choses inanimées, eussent dit, en voyant les deux maisons, qu'elles bâillaient vis-à-vis l'une de l'autre. Non loin de là, on entendait un grand bruit d'airain mêlé de voix confuses, de murmures vagues et de glapissements, comme si des corybantes eussent célébré dans un antre les mystères de la bonne déesse. C'était probablement ce bruit qui attirait à lui un jeune homme au toquet violet, à la plume rouge et au manteau gris, un beau cavalier qui s'arrêtait des minutes entières devant ce vacarme, puis revenait lentement, pensif, et la tête baissée vers la maison de maître Robert Briquet. Or, cette symphonie d'airain choqué, c'était le bruit des casseroles. Ces murmures vagues, ceux des marmites bouillant sur les brasiers et des broches tournant aux pattes des chiens, ces cris, ceux de maître Fournichon, hôte du fier chevalier occupé du soin de ses fourneaux, et ces glapissements, ceux de dame Fournichon, qui faisait préparer les boudoirs des tourelles. Quand le jeune homme au toquet violet avait bien regardé le feu, bien respiré le parfum des volailles, bien interrogé les rideaux des fenêtres, il revenait sur ses pas, puis recommençait à examiner encore. Il y avait cependant, si indépendante que parut sa marche au premier abord, une limite que le promeneur ne franchissait jamais. C'était l'espèce de ruisseau qui coupait la rue devant la maison de Robert Briquet et aboutissait à la maison mystérieuse. Mais aussi, il faut le dire, chaque fois que le promeneur arrivait sur cette limite, il y trouvait, comme une sentinelle vigilante, un autre jeune homme, du même âge à peu près, au toquet noir, à la plume blanche, au manteau violet, qui, le front plissé, l'œil fixe, la main sur l'épée, semblait dire, semblable au géant Adamastor, « Tu n'iras pas plus loin sans trouver la tempête ». Le promeneur aux plumes rouges, c'est-à-dire le premier que nous avons introduit sur la scène, fit 20 tours à peu près, sans rien remarquer de tout cela, tant il était préoccupé. Certainement, il n'était pas sans avoir vu un homme arpentant comme lui la voie publique, mais cet homme était trop bien vêtu pour être un voleur, et jamais l'idée ne lui fut venue de s'inquiéter de rien, sinon de ce qu'il faisait au fier chevalier. Mais l'autre, au contraire, à chaque retour du plumet rouge, fonçait en noir la teinte sombre de son visage. Enfin, la dose de fluide irrité devint si lourde chez le plumet blanc qu'elle finit par frapper le plumet rouge et par attirer son attention. Il leva la tête et lut sur le visage de celui qui se trouvait en face de lui toute la mauvaise volonté qu'il paraissait éprouver à son égard. Cela l'induisit naturellement à penser qu'il gênait le jeune homme, puis cette pensée amena le désir de s'informer en quoi il le gênait. Il se mit en conséquence à regarder attentivement la maison de Robert Briquet, puis de cette maison il passa à celle qui faisait son pendant. Enfin, lorsqu'il les eut bien regardées l'une et l'autre, sans s'inquiéter ou sans paraître s'inquiéter au moins de la façon dont le jeune homme aux plumets blancs le regardait, il lui tourna le dos et revint aux rutilants éclairs des fourneaux de maître Fournichon. Le plumet blanc, heureux d'avoir mis son adversaire en déroute, car il attribuait à la déroute le mouvement de volte-face qu'il venait de lui voir faire, le plumet blanc se mit à marcher dans son sens, c'est-à-dire de l'est à l'ouest, tandis que l'autre s'avançait de l'ouest à l'est. Mais quand chacun d'eux fut arrivé au point qu'il s'était intérieurement marqué pour sa course, il se retourna et revint en ligne droite sur l'autre, et en si droite ligne que n'eût été le ruisseau, le Rubicon nouveau qu'il fallait franchir, ils se fussent heurtés nez à nez, tant la précision de la ligne droite avait été scrupuleusement respectée. Le Plumet blanc frisa sa petite moustache avec un mouvement d'impatience visible. Le Plumet rouge prit un air étonné, puis il lança un nouveau regard à la maison mystérieuse. On eût pu voir alors le Plumet blanc faire un pas pour franchir le Rubicon, mais le Plumet rouge s'était déjà éloigné. La marche en ligne inverse recommença. Pendant 5 minutes, on eût pu croire qu'ils ne se rencontreraient qu'aux antipodes, mais bientôt, avec le même instinct et la même précision que la première fois, tous deux se retournèrent en même temps. Comme deux nuages qui suivent sous des souffles contraires la même zone du ciel et que l'on voit avancer l'un vers l'autre en déployant leurs flocons noirs, prudentes avant-gardes, les deux promeneurs arrivèrent cette fois en face l'un de l'autre, résolus à se marcher sur les pieds plutôt que de reculer d'un pas. Plus impatient sans doute que celui qui venait à sa rencontre, le Plumet blanc, au lieu de demeurer comme il l'avait fait jusque-là sur la limite du ruisseau, enjamba le dit ruisseau et fit reculer son adversaire, qui, ne se doutant pas de cette agression et les deux bras pris sous son manteau, faillit perdre l'équilibre. « Ah ça, monsieur, dit ce dernier, êtes-vous fou ou avez-vous l'intention de m'insulter ?» Monsieur, j'ai l'intention de vous faire comprendre que vous me gênez fort. Il m'avait même semblé que, sans que j'eusse besoin de vous le dire, vous vous en étiez aperçu. Pas le moins du monde, monsieur, car j'ai pour système de ne voir jamais ce que je ne veux pas voir. Il y a cependant certaines choses qui attireraient vos regards, je l'espère, si on les faisait briller à vos yeux. Et, joignant le mouvement à la parole, le jeune homme au Plumet blanc se débarrassa de sa cape et tira son épée qui étincela sous un rayon de la lune, glissant en ce moment entre deux nuages. Le Plumet rouge resta immobile. « On dirait, monsieur, répliqua-t-il en haussant les épaules, que vous n'avez jamais mis une lame hors du fourreau, tant vous vous hâtez de la faire sortir contre quelqu'un qui ne se défend pas. Non, mais qui se défendra, je l'espère. » Le Plumet rouge sourit avec une tranquillité qui doubla l'irritation de son adversaire. « Pourquoi cela? Et quel droit avez-vous de m'empêcher de me promener dans la rue ?»« Pourquoi vous y promenez-vous dans la rue ?»« Parbleu, la belle demande, parce que cela me plaît. »« Ah, cela vous plaît. Sans doute, vous vous y promenez bien, vous. Avez-vous licence du roi de fouler seul le pavé de la rue de Bussy ?» Que j'ai licence ou non, peu importe. Vous vous trompez, il importe beaucoup au contraire. Je suis fidèle sujet de Sa Majesté et ne voudrais point lui désobéir. Ah, vous raillez, je crois. Quand cela serait, vous menacez bien, vous. Ciel et terre, je vous dis que vous me gênez, monsieur, et que si vous ne vous éloignez point de bonne volonté, je saurais bien vous éloigner de force. Oh, monsieur, c'est ce qu'il faudra voir. Eh, morbleu, c'est ce que je vous dis depuis une heure, voyons. Monsieur, j'ai particulièrement affaire dans ce quartier-ci. Vous voilà donc prévenu. Maintenant, si c'est chez vous un absolu désir, j'échangerai volontiers une passe d'épée, mais je ne m'éloignerai pas. Monsieur, dit le Plumet blanc en faisant siffler son épée et en rassemblant ses deux pieds comme un homme qui s'apprête à tomber en garde, « Je me nomme le comte Henri du Bouchage. Je suis frère de monsieur le duc de Joyeuse. Une dernière fois, vous plaît-il de me céder le pas et de vous retirer ?»« Monsieur, répondit le Plumet rouge, je me nomme le vicomte Ernoton de Carminges. Vous ne me gênez pas du tout et je ne trouve aucunement mauvais que vous demeuriez. » Du Bouchage réfléchit un instant et remit son épée au fourreau. « Excusez-moi, monsieur, dit-il, je suis à moitié fou, étant amoureux. »« Et moi aussi, je suis amoureux, répondit Ernoton, mais je ne me crois aucunement fou pour cela. » Henri pâlit. « Vous êtes amoureux ?»« Oui, monsieur. » »« Et vous l'avouez ? Depuis quand est-ce un crime ? Mais amoureux dans cette rue ? Pour le moment, oui. » « Au nom du ciel, monsieur, dites-moi qui vous aimez ?»« Monsieur du Bouchage, Vous n'avez point réfléchi à ce que vous me demandez. Vous savez bien qu'un gentilhomme ne peut révéler un secret dont il n'a que la moitié.
C'est vrai, pardon, monsieur de Carminges, mais c'est qu'en vérité, nul n'est aussi malheureux que moi sous le ciel. »
Il y avait tant de vraie douleur et de désespoir éloquent dans ces quatre mots prononcés par le jeune homme qu'Ernoton en fut profondément touché.
« Oh, mon Dieu, je comprends, dit-il, vous craignez que nous ne soyons rivaux. »«
Je le crains. »«
Fit Ernoton, eh bien, monsieur, je vais être franc. »
Joyeuse pâlit et passa sa main sur son front.
« Moi, continua Ernoton, j'ai un rendez-vous. »«
Vous avez un rendez-vous ?»«
Oui, en bonne forme. »«
Dans cette rue ?»«
Dans cette rue. » »«
Écrit ?»
Oui, d'une fort jolie écriture même.
De femme?
Non, d'homme.
D'homme, que voulez-vous dire?
Mais pas autre chose que ce que je dis. J'ai un rendez-vous avec une femme d'une assez jolie écriture d'homme. Ce n'est pas précisément aussi mystérieux, mais c'est plus élégant. On a un secrétaire à ce qu'il paraît.
Ah, murmura Henri.
Achevez, monsieur. Au nom du ciel, achevez.
Vous me le demandez de telle façon, monsieur, que je ne saurais vous refuser.
Je vais donc vous lire la teneur du billet.
J'écoute. Vous verrez si c'est la même chose pour vous.
Assez, monsieur, par grâce. Moi, l'on ne m'a point donné de rendez-vous. Moi, je n'ai pas reçu de billet.
Ernoton tira de sa bourse un petit papier.
Voilà le billet, monsieur, dit-il. Il me serait difficile de vous le lire par cette nuit obscure, mais il est court et je le sais par cœur.
Vous en rapportez-vous à moi, de ne point vous tromper ?
Oh, tout à fait. Voici donc les termes dans lesquels il est conçu.
Monsieur Ernoton, mon secrétaire est par moi chargé de vous dire que j'ai grand désir de causer avec vous une heure. Votre mérite m'a touché.
Il y a cela ? Demanda du Bouchage.
Ma foi, oui, monsieur. La phrase est même soulignée. Je passe à une autre phrase un peu trop flatteuse.
Et vous êtes attendu?
C'est-à-dire que j'attends, comme vous voyez.
Alors on doit vous ouvrir la porte?
Non, on doit siffler trois fois par la fenêtre.
Henri, tout frémissant, posa une de ses mains sur le bras d'Ernoton et de l'autre, lui montrant la maison mystérieuse.
De là? Demanda-t-il.
Pas du tout, répondit Ernoton en montrant les tourelles du fier chevalier.
De là!
Henri poussa un cri de joie.
« Mais vous n'allez donc pas ici, dit-il. »«
Non, le billet dit positivement « Hôtellerie du fier chevalier ».»«
Oh, soyez béni, monsieur, » dit le jeune homme en lui serrant la main.
« Oh, pardonnez-moi mon incivilité, ma sottise. Hélas, vous le savez, pour l'homme qui aime véritablement, il n'existe qu'une femme, et en vous voyant sans cesse revenir jusqu'à cette maison, j'ai cru que c'était par cette femme que vous étiez attendu.
Oh, « Je n'ai rien à vous pardonner, monsieur, » dit Ernoton en souriant, « car en vérité j'ai eu un instant de mon côté l'idée que vous étiez dans cette rue pour le même motif que moi. »
Et vous avez eu cette incroyable patience de ne rien me dire, monsieur.
Oh, vous n'aimez pas, vous n'aimez pas.
Ma foi, écoutez, je n'ai pas encore de grand droit. J'attendais un éclaircissement quelconque avant de me fâcher.
Ces grandes dames sont si étranges dans leurs caprices et une mystification est si amusante.
Allons, allons, monsieur de Carminges, vous n'aimez pas comme moi, et cependant...
Et cependant, répéta d'Ernoton...
Et cependant, vous êtes plus heureux.
Ah, l'on est cruel dans cette maison.
De Carminges dit joyeuse, voilà trois mois que j'aime comme un fou celle qui l'habite, et je n'ai pas encore eu le bonheur d'entendre le son de sa voix.
Diable, vous n'êtes pas avancé, mais attendez donc.
Quoi?
Est-ce qu'on n'a pas sifflé?
En effet, il me semble avoir entendu.
Les deux jeunes gens écoutèrent. Un second coup se fit entendre dans la direction du fier chevalier.
« Ah, monsieur le comte, dit Ernoton, vous m'excuserez de ne pas vous faire compagnie plus longue, mais je crois que voilà mon signal. »
Un troisième coup retentit.
« Allez, monsieur, allez, dit Henriet, bonne chance. »
Ernoton s'éloigna lentement et son interlocuteur le vit disparaître dans l'ombre de la rue pour reparaître dans la lumière que jetaient les fenêtres du fier chevalier
et disparaître encore. Quant à lui, plus morne qu'auparavant, car cette espèce de lutte l'avait un instant fait sortir de sa léthargie, « Allons, dit-il, faisons mon métier accoutumé, frappons comme d'habitude à la porte maudite qui jamais ne s'ouvre. » Et en disant ces mots, il s'avança, chancelant, vers la porte de la maison mystérieuse. Mais en arrivant à la porte de la maison mystérieuse, le pauvre Henri fut repris de son hésitation habituelle. « Ah, du courage !» se dit-il à lui-même, « frappons !» Et il fit encore un pas. Mais avant de frapper, il regarda encore une fois derrière lui et vit sur le chemin le reflet brillant des lumières de l'hôtellerie. « Ah, là-bas, se dit-il, entre pour l'amour et pour la joie des gens qu'on appelle et qui n'ont pas même désiré. Pourquoi n'ai-je pas le cœur tranquille et le sourire insouciant? J'entrerai peut-être là-bas aussi, moi, au lieu d'essayer vainement d'entrer ici. » On entendit la cloche de Saint-Germain-des-Prés qui vibrait mélancoliquement dans les airs. « Allons, voilà 10 heures qui sonnent, » murmura Henri. Il mit le pied sur le seuil de la porte et souleva le heurtoir. « Vie effroyable, » murmura-t-il, « vie de vieillard. Oh, quel jour pourrais-je donc dire, belle mort, riante mort, douce tombe, salut ?» Il frappa un deuxième coup. « C'est cela, » continua-t-il en écoutant, « voilà le bruit de la porte intérieure qui crie, le bruit de l'escalier qui gémit, le bruit du pas qui s'approche, ainsi toujours, toujours la même chose. » Et il frappa une troisième fois. « Encore ce coup, » dit-il, « le dernier. Ah, c'est cela. Le pas devient plus léger. Le serviteur regarde au treillis de fer, il voit ma pâle, ma sinistre, mon insupportable figure, puis il s'éloigne sans ouvrir jamais. La cessation de tout bruit sembla justifier la prédiction du malheureux jeune homme. « Adieu, maison cruelle, adieu jusqu'à demain, » dit-il. Et se baissant de manière à ce que son front fût au niveau du seuil de pierre, il y déposa du fond de l'âme un baiser qui fit tressaillir le dur granit, moins dur cependant encore que le cœur des habitants de cette maison. Puis, comme il l'avait fait la veille et comme il comptait faire le lendemain, il se retira. Mais à peine avait-il fait 2 pas en arrière, qu'à sa profonde surprise, le verrou grinça dans sa gâche. La porte s'ouvrit et le serviteur s'inclina profondément. C'est le même dont nous avons tracé le portrait lors de son entrevue avec Robert Briquet. « Bonsoir, monsieur, » dit-il d'une voix rauque, mais dont le son cependant parut à du bouchage plus doux que les plus suaves concerts des chérubins qu'on entend dans ces songes d'enfance où l'on rêve encore du ciel. Tremblant et perdu, Henri, qui avait déjà fait 10 pas pour s'éloigner, se rapprocha vivement, et, joignant les mains, il chancela si visiblement que le serviteur le retint pour l'empêcher de tomber sur le seuil. Ce que cet homme fit au reste avec l'expression visible d'une respectueuse compassion. « Voyons, monsieur, dit-il, me voilà, expliquez-moi, je vous prie, ce que vous désirez. » « J'ai tant aimé, répondit le jeune homme, que je ne sais plus si j'aime encore. Mon cœur a tant battu que je ne puis dire s'il bat toujours. » « Vous plairait-il, monsieur, dit le serviteur, avec respect, de vous asseoir là, près de moi, et de causer ?»« Oh oui !» Le serviteur lui fit un signe de la main. Henri obéit à ce signe, comme il eût obéi à un geste du roi de France ou de l'empereur romain. « Parlez, monsieur, dit le serviteur, quand ils furent assis l'un près de l'autre, et dites-moi votre désir. » « Mon ami, répondit du bouchage, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous nous parlons et que nous touchons ainsi. Maintes fois, vous le savez, je vous ai attendu et surpris au détour d'une rue. Alors je vous ai offert assez d'or pour vous enrichir quand vous eussiez été le plus avide des hommes. D'autres fois, j'ai essayé de vous intimider, jamais vous ne m'avez écouté. Toujours vous m'avez vu souffrir, et cela sans compatir, visiblement du moins, à mes souffrances. Aujourd'hui, vous me dites de vous parler, vous m'invitez à vous exprimer mon désir. Qu'est-il donc arrivé, mon Dieu, et quel nouveau malheur me cache cette condescendance de votre part? Le serviteur poussa un soupir. Il y avait évidemment un cœur pitoyable sous cette rude enveloppe. Ce soupir fut entendu de Henri et l'encouragea. « Vous savez, continua-t-il, que j'aime et comment j'aime. Vous m'avez vu poursuivre une femme et la découvrir malgré ses efforts pour se cacher et pour me fuir. Jamais, dans mes plus grandes douleurs, une parole amère ne m'est échappée. Jamais je n'ai donné suite à ces pensées de violence qui naissent du désespoir et des conseils que nous souffle avec l'ardeur du sang la fougueuse jeunesse. » « C'est vrai, monsieur, dit le serviteur, et en ceci, pleine justice vous est rendue par ma maîtresse et par moi. » Ainsi, convenez-en, continua Henri, en pressant entre ses mains les mains du vigilant gardien, ainsi ne pouvais-je pas un soir, quand vous me refusiez l'entrée de cette maison, ne pouvais-je pas enfoncer la porte, ainsi que le fait tous les jours le moindre écolier ivre ou amoureux. Alors, ne fût-ce que pour un moment, j'aurais vu cette femme inexorable, je lui eusse parlé. C'est vrai encore. Enfin, continua le jeune comte avec une douceur et une tristesse inexprimables, je suis quelque chose en ce monde. Mon nom est grand, ma fortune est grande, mon crédit est grand, le roi lui-même, le roi, me protège. Tout à l'heure encore, le roi me conseillait de lui confier mes douleurs, me disait de recourir à lui, m'offrait sa protection. « Ah !» fit le serviteur avec une inquiétude visible. « Je n'ai point voulu, » se hâta de dire le jeune homme. « Non, non, j'ai tout refusé pour venir prier à main jointe de s'ouvrir cette porte qui, je le sais bien, ne s'ouvre jamais. » « Monsieur le comte, vous êtes en effet un cœur loyal et digne d'être aimé. »« Eh bien, interrompit Henri avec un douloureux serrement de cœur, cet homme au cœur loyal, et de votre avis même digne d'être aimé, à quoi le condamnez-vous ? Chaque matin, mon page apporte une lettre, on ne la reçoit même pas. Chaque soir, je viens heurter à cette porte moi-même, et chaque soir, on m'éconduit. Enfin, on me laisse souffrir, me désoler. » Mourir dans cette rue sans avoir pour moi la compassion qu'on aurait pour un pauvre chien qui hurle. Ah, mon ami, je vous le dis, cette femme n'a pas le cœur d'une femme. On n'aime pas un malheureux, soit, ah, mon Dieu, on ne peut pas plus commander à son cœur d'aimer que de lui dire de n'aimer plus, mais on a pitié d'un malheureux qui souffre et on lui dit un mot de consolation. Mais on plaint un malheureux qui tombe, et on lui tend la main pour le relever. Mais non, non, cette femme se complaît avec mon supplice. Non, cette femme n'a pas de cœur. Non, car si elle eût eu un cœur, elle m'eût tué avec un refus de sa bouche, ou fait tuer par quelques coups de couteau, avec quelques coups de poignard. Ah, mort au moins, je ne souffrirai plus. Monsieur le comte, répondit le serviteur, après avoir scrupuleusement écouté tout ce que venait de dire le jeune homme, la dame que vous accusez est loin, croyez-le bien, d'avoir le cœur aussi insensible et surtout aussi cruel que vous le dites. Elle souffre plus que vous, car elle vous a vu quelquefois, car elle a compris ce que vous souffrez, et elle ressent pour vous une vive sympathie. « Oh, de la compassion !» s'écria le jeune homme en essuyant la sueur froide qui coulait de ses tempes. Oh, vienne le jour où son cœur que vous vantez connaîtra l'amour tel que je le sens, et si, en échange de cet amour, on lui offre alors de la compassion, je serai bien vengé. Monsieur le comte, ce n'est pas une raison de n'avoir point aimé que de ne pas répondre à l'amour. Cette femme a peut-être connu la passion plus forte que vous ne la connaîtrez jamais. Cette femme a peut-être aimé comme jamais vous n'aimerez. Henri leva les mains au ciel. « Quand on a aimé, on aime toujours » s'écria-t-il. « Vous ai-je donc dit qu'elle n'aimait plus, monsieur le comte ?» demanda le serviteur. Henri poussa un cri douloureux et s'affaissa comme s'il eût été frappé de mort. « Elle l'aime » s'écria-t-il, « elle l'aime ! Ah, mon Dieu, mon Dieu !»« Oui, elle l'aime, mais ne soyez point jaloux de l'homme qu'elle aime, monsieur le comte. Cet homme n'est plus de ce monde. Ma maîtresse est veuve. » ajouta le serviteur compatissant, espérant calmer par ses mots la douleur du jeune homme. Et en effet, comme par enchantement, ces mots lui rendirent le souffle, la vie et l'espoir. « Voyons, au nom du ciel, dit-il, ne m'abandonnez pas, elle est veuve, dites-vous. Alors elle l'est depuis peu, alors elle verra se tarir la source de ses larmes. Elle est veuve, ah, mon ami, elle n'aime personne. Alors, puisqu'elle aime un cadavre, une ombre, un nom, la mort c'est moins que l'absence. Me dire qu'elle aime un mort, c'est me dire qu'elle m'aimera. Oh mon Dieu, toutes les grandes douleurs se sont calmées avec le temps. Quand la veuve de Mausol, qui avait juré à la tombe de son époux une douleur éternelle, quand la veuve de Mausol eut épuisé ses larmes, elle fut guérie. Les regrets sont une maladie. Quiconque n'est pas emporté dans la crise sort de cette crise plus vigoureux et plus vivace qu'auparavant. Le serviteur secoua la tête. Cette dame, monsieur le comte, répondit-il, comme la veuve du roi Mausol, a juré aux morts une éternelle fidélité. Mais je la connais, elle tiendra mieux sa parole que ne l'a fait cette femme oublieuse dont vous me parlez. J'attendrai 10 ans s'il le faut, s'écria Henri. Dieu n'a pas permis qu'elle mourût de chagrin ou qu'elle abrégeât violemment ses jours. Vous voyez bien que, puisqu'elle n'est pas morte, c'est qu'elle peut vivre, et que, puisqu'elle vit, je puis espérer. Oh, jeune homme, dit le serviteur avec un accent lugubre, ne comptez pas ainsi avec les sombres pensées des vivants, avec les exigences des morts. Elle l'a vécu, dites-vous, oui, elle l'a vécu, non pas un jour, non pas un mois, non pas une année, elle l'a vécu 7 ans. Joyeuse tressaillit. Mais savez-vous pourquoi, dans quel but, pour accomplir, quelle résolution elle a vécu? Elle se consolera, espérez-vous. Jamais, monsieur le comte, jamais. C'est moi qui vous le dis, c'est moi qui vous le jure, moi qui n'étais que le très humble serviteur du mort, moi qui, tant qu'il a vécu, était une âme pieuse, ardente et pleine d'espérance, et qui, depuis qu'il est mort, suis devenu un cœur endurci. Eh bien, moi qui ne suis que son serviteur, je vous le répète, jamais je ne m'en consolerai. Cet homme, tant regretté, interrompit Henri, ce mort bienheureux, ce mari. Ce n'était pas le mari, c'était l'amant, monsieur le comte, et une femme comme celle que, malheureusement, vous aimez, n'a qu'un amant dans toute sa vie. Mon ami, s'écria le jeune homme effrayé de la majesté sauvage de cet homme à l'esprit élevé, et qui cependant était perdu sous des habits vulgaires. Mon ami, je vous en conjure, intercédez pour moi. Moi, s'écria-t-il, moi, écoutez, monsieur le comte, si je vous eusse cru capable d'user de violence envers ma maîtresse, je vous eusse tué de cette main. Et il tira de dessous son manteau un bras nerveux et viril qui ressemblait à celui d'un homme de 25 ans à peine, tandis que ses cheveux blanchis et sa taille courbée lui donnaient l'apparence d'un homme de 60 ans. Si, au contraire, continua-t-il, j'eusse pu croire que ma maîtresse vous aima, c'est elle qui serait morte. Maintenant, monsieur le comte, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ne cherchez point à m'en faire avouer davantage, car, sur mon honneur, quoique je ne sois pas gentilhomme, croyez-moi, mon honneur vaut quelque chose, car, sur mon honneur, j'ai dit tout ce que je pouvais avouer. Henri se leva, la mort dans l'âme. « Je vous remercie, dit-il, d'avoir eu cette compassion pour mes malheurs. Maintenant, je suis décidé. Ainsi, vous serez plus calme à l'avenir, monsieur le comte, ainsi, vous vous éloignerez de nous, vous nous laisserez à une destinée pire que la vôtre, croyez-moi. Oui, je m'éloignerai de vous, en effet. Soyez tranquille, dit le jeune homme, et pour toujours. Vous voulez mourir, je vous comprends. Pourquoi vous le cacherais-je? Je ne puis vivre sans elle. Il faut bien que je meure du moment où je ne la possède pas. Monsieur le comte, nous avons bien souvent parlé de la mort avec ma maîtresse. Croyez-moi, c'est une mauvaise mort que celle qu'on se donne de sa propre main. Aussi, n'est-ce point celle-là que je choisirais? Il y a, pour un jeune homme de mon nom, de mon âge et de ma fortune, une mort qui, de tout temps, a été une belle mort. C'est celle que l'on reçoit en défendant son roi et son pays. Si vous souffrez au-delà de votre force, si vous ne devez rien à ceux qui vous serviront, si la mort sur le champ de bataille vous est offerte, mourrez, monsieur le comte, mourrez. Il y a longtemps que je serais mort, moi, si je n'étais condamné à vivre. Adieu, et merci, répondit Joyeuse en tendant la main au serviteur inconnu. et il s'éloigna rapidement, jetant aux pieds du serviteur, touché de cette douleur profonde, une pesante bourse d'or. Minuit sonnait à l'église Saint-Germain-des-Prés.